France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Carthage, ce nom fait depuis toujours vibrer la corde du mythe, port d'abord phénicien situé au nord-est de l'actuelle Tunisie. Cette ville a été le foyer d'une culture punique qui a donné son nom aux fameuses guerres opposant Romains et Puniques au 3e et 2e siècle avant notre ère. Mais que sait-on réellement de cette ville et plus particulièrement de ses ports qui figurent autant au panthéon des légendes de Carthage que son général Hannibal? Si des fouilles avaient déjà été conduites pour comprendre ses infrastructures au 20e siècle, de récents travaux de recherche en géoarchéologie conduits conjointement par des équipes tunisiennes et françaises ont permis d'analyser des sédiments encore plus vieux que ceux connus jusqu'alors. L'objectif était clair, retrouver la trace des toutes premières installations portuaires de Carthage et leur redonner leur lustre millénaire. La mission a-t-elle été accomplie? C'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Philippe Guaran. Bonjour. Vous êtes géoarchéologue, chercheur au CNRS et au laboratoire Archéorient de Lyon, et vous êtes spécialiste de l'étude des ports antiques. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de vos découvertes récentes liées aux deux ports de Carthage, l'un militaire et l'autre de commerce. Alors ce nom de Carthage charrie tout un tas d'images plus ou moins véridiques et plus ou moins romantiques. J'aimerais que vous nous aidiez à y voir clair sur ce qu'était cette ville antique. On va commencer finalement, Jean-Philippe Guaran, par l'origine. Qui a fondé Carthage et quand ?
C'est une princesse, elle s'appelle Elissa et elle vient du Liban actuel, qu'on appelait à l'époque la Phénicie. Elle vient d'une ville portuaire qui s'appelle Tyr, au sud Liban. Et au 9e siècle, il y a un problème dans la famille et donc elle décide de partir avec ses alliés pour fonder une nouvelle colonie. Et elle va arriver aux alentours de Carthage, donc au milieu de la Méditerranée, et elle va fonder cette ville, donc au 9e siècle avant Jésus-Christ. Avec tout ce savoir-faire phénicien. Et elle va... Alors ça, c'est la légende. Hein. Mais les archéologues, et vous l'avez dit tout à l'heure, au XXe siècle, ensuite, vont, même au début du XXe siècle et fin du XIXe, vont valider cette date du IXe siècle lors des fouilles de la colline de Bisra à Carthage.
Quelle était la fonction première de cette Carthage fondée par Elissa?
Alors, ce sont des Phéniciens, les Phéniciens, ça veut dire pourpre. Ils ont fait leur richesse sur cette glande qui est dans un coquillage, un gastéropode qu'on appelle le murex trunculus. Dedans, il y a une petite glande pourpre qui colore les vêtements et c'est des vêtements de luxe. Et ils ont besoin de faire du commerce, à la fois avec cette pourpre et autres, et ils vont aller ils vont dépasser les colonnes d'Hercule même. Ils vont aller dans l'Espagne actuelle, ils dépassent les colonnes d'Hercule, c'est Gibraltar, et ils vont aller faire du Maroc, ils vont aller faire du commerce jusqu'au Maroc, jusqu'au Portugal. Et il leur faut, entre les colonnes d'Hercule et le littoral du Levant, une escale, et Carthage est au milieu de la Méditerranée, et ça va être un port relais parfait.
Un port finalement, oui, à mi-chemin, idéalement situé. Pour quelles raisons Carthage prend-elle progressivement de l'ampleur, et même vraiment de l'ampleur, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ?
Ils arrivent, ils ont ce savoir-faire incroyable qu'ont les Phéniciens. C'est-à-dire que c'est une nouvelle thalassocratie. La thalassocratie, c'est une civilisation maritime qui se base sur deux éléments importants. Un pouvoir économique et un pouvoir militaire. Ce pouvoir économique, comme c'est un port, il y a des routes commerciales avec des bateaux de commerce. Ça apporte de la richesse. Mais pour renforcer et pour sécuriser ces routes commerciales maritimes, ils ont besoin d'une flotte de guerre. Et c'est la définition de la thalassocratie. Donc ils arrivent avec ce génie phénicien, ils se transforment en punique.
Oui, il y a un glissement finalement civilisationnel où progressivement se développe une civilisation punique.
Oui, exactement. Ouais. On passe des phéniciens, puis des phénico-puniques aux puniques. Et ensuite, eh bien, ils vont avoir de très bons ingénieurs. Alors déjà, ils vont guerroyer un petit peu en Sicile, parce que vous voyez, au large de la Tunisie, il y a la Sicile. Et là, les Carthaginois et les Grecs vont faire quelques batailles pendant quelques siècles. Finalement, ni les uns ni les autres vont gagner. Mais à un moment, ils voient quand même une troisième civilisation romaine qui arrive.
Là, on est en 264 avant Jésus-Christ, et là, ça va poser un petit souci. Ils vont s'écharper, justement, ils vont se disputer la Sicile. C'est le début, finalement, là, tout simplement, de la première guerre punique.
Exactement, c'est le début de la première guerre punique. Donc là, c'est une bataille vraiment, surtout au début terrestre, parce que les Romains sont pas très forts hein, sur les batailles navales. Et ensuite, discrètement, ils vont quand même construire une flotte de guerre. Alors, les Carthaginois aussi ont une très belle flotte de guerre. Ils ont Appien, qui est un historien ancien, dit qu'il y a 200 navires de guerre quand même, hein, voire 220 navires de guerre. Et malheureusement, à la fin de la première guerre punique, en 241, les troupes carthaginoises sont défaites au large de la Sicile, à la bataille des îles Égates.
Et là, du coup, les Carthaginois sont défaits, mais ils veulent prendre leur revanche, éventuellement. Oui. Et c'est là que va se préparer la deuxième guerre punique. Deuxième guerre punique qui va faire intervenir un nom légendaire dans l'histoire de Carthage, c'est Hannibal. Hannibal, lui-même fils d'un autre nom comme ça qui parle, quand on a lu Salammbô de Flaubert, c'est le fils d'Hamilcar, ouais. Hamilcar Barca, parce que dans le début de Salammbô, c'est la première phrase, c'est « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar », qui est une phrase assez légendaire dans l'histoire de la littérature française. Bref, passons, cette deuxième guerre punique, quelle forme prend-elle et qu'est-ce que ça va donner ?
Alors, Hamilcar, d'abord, regardons un peu Hamilcar. Il est malin. Il arrive à la fin de la première guerre punique. Il voit que les Carthaginois ont perdu la Sicile. C'est une catastrophe. Et lui, ce qu'il dit, on a perdu la Sicile, on va prendre l'Espagne. Et l'Espagne est très riche concernant les mines d'argent, de plomb. Et ça va permettre de renforcer la puissance de Carthage, qui renaît de ses cendres, en quelque sorte. Et ça va amener à la deuxième guerre punique parce que les Romains commencent à avoir un peu peur de Carthage. Et il y a aussi cette idée, et vous l'avez dit avec Hannibal, il a été élevé en plus avec ce danger de Rome. Donc lui, il va partir d'Espagne, de Carthagène, il franchit les Pyrénées, il remonte la côte languedocienne, il arrive aux alentours du fleuve Rhône. Il n'y a pas de pont à l'époque. Hein. Les Romains ont des espions. Ils envoient une légion romaine à Marseille, qu'on appelait Massilia à l'époque. Mais Hannibal est, disons, plus malin, plus rapide. Il arrive à franchir le Rhône avant que les Romains ne lui barrent la route. Parce que les Romains voulaient se placer en rive gauche. Lui, alors on ne sait pas encore bien où est-ce qu'il passe. Hein.
On n'a toujours pas retrouvé tout ça.
Alors il y a trois... Il y a aux alentours d'Arles, ou un peu plus au nord à Tarascon, ou alors au niveau d'Avignon. Alors, chaque discipline scientifique a son hypothèse. Nous, les géographes, on dit ça doit être aux alentours d'Avignon, parce qu'Avignon, il y a la Durance, qui apporte énormément de sédiments grossiers, qu'on appelle les galets. Et lorsque la Durance, c'est cette confluence entre la Durance et le Rhône, arrive là, il y a une telle charge de galets qu'elle perturbe un peu l'écoulement du Rhône, qui va s'élargir en amont. Et il y a des îles, il y a l'île de la Barthelasse, toujours. Hein. Du coup, il y a des cours d'eau moins large, et probablement en amont, il y avait des endroits avec des îles et des chenaux moins profonds où Hannibal aurait pu passer avec son armée et ses éléphants.
Les fameux éléphants qui ont traversé les Alpes
ensuite,
pour
ont traversé les Alpes. Italie. Et le problème de ce passage, c'est que le Rhône, il enlève les traces parce qu'il se déplace sur son lit avec le temps. Et du coup, la géographie de l'époque fluviale n'est pas la même de celle d'aujourd'hui. Et quand il se déplace, ce Rhône, c'est comme un meurtrier. Il détruit les indices de son passage, sa rive droite et sa rive gauche. Et les traces du passage d'une armée qui faisait quand même 100 000 hommes. Hein. Et du coup, pour nous, les scientifiques ou les enquêteurs, on a du mal à retrouver les indices parce que le Rhône a tout nettoyé.
Cette deuxième guerre punique s'achève en 201. Quelle est la conclusion de cette guerre-là ? Comment ça se résout pour les Carthaginois ?
Alors, c'est une catastrophe, puisque Hannibal n'arrive pas à prendre Rome, probablement parce qu'elle est trop grande muraille. Les Romains sont malins, ils envoient leur meilleur général, Scipion, mener combat en Tunisie. Du coup, Hannibal rentre vite, et malheureusement, à Zama, en 202... avant, Hannibal perd la bataille contre Scipion. Et là, les Romains sont vraiment pas contents. Il faut pas que Carthage renaisse de ses cendres. Ils détruisent Carthage.
C'est la fameuse phrase qui va être un peu le saut de cette troisième guerre punique entre 148 et 146, beaucoup plus courte celle-ci, phrase de Caton l'Ancien devant le Sénat, qui commençait toutes ses prises de parole et qui finissait toutes ses prises de parole par cette phrase « Delendo est Carthago », cette phrase qu'on a entendue mille fois si on a fait un peu de latin, « Carthage est à détruire ». Voilà. C'est ce que fait Rome, finalement.
C'est ce que fait Rome à la troisième guerre punique. Voilà, définitivement, ensuite, Carthage est abandonné. Et après, aux alentours du, au moment de César, César dit non, mais il nous faut quand même un comptoir là. Mmh. On est au milieu de la Méditerranée, il faut remettre un port. En faisant attention, mais donc ils remettent un port. Et en plus, à l'époque, hein, au moment de César, la Méditerranée, c'est Mare Nostrum. Toute la Méditerranée appartient aux Romains. Hein.
Donc finalement, cette troisième guerre punique, c'est celle qui donne forme à ces ports de Carthage, tels qu'on les connaît quand on les observe de façon archéologique. Ouais. Et tout l'enjeu, c'est d'aller essayer de comprendre ce qu'étaient ces ports anciens, qu'était Carthage. Parlons de ce qu'on connaît de ces ports-là et de finalement de la façon dont ils incarnent la puissance de la ville de Carthage, à la fois d'un côté militaire et d'un côté commercial. Quelle forme ils ont ? Il y en a un, le port militaire, je crois, qui est vraiment un archétype de la beauté des ports antiques. Décrivez-nous ce port de Carthage.
Oui, c'est la forme parfaite, c'est la définition parfaite de la thalassocratie. Mmh. Vous avez un port circulaire, la forme parfaite, qui abrite 200 navires de guerre et un port commercial... qui va abriter tous les navires qui font du commerce. Et ce port militaire, alors il est protégé, c'est un port secret, un port invisible. Les auteurs anciens disent qu'il y a des murailles très 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 élevées. D'ailleurs, les archéologues allemands, à la fin du XXe siècle, vont faire des fouilles, ils vont trouver les vestiges de cette muraille punique de mer pour protéger les espions. Pour protéger les espions de l'époque de cette...
J'ai presque un plan de film en tête d'un travelling qui montrait comme ça, et tout d'un coup, le port militaire apparaîtrait dans sa rotondité parfaite, avec ses bateaux de guerre tous installés en cercle.
Et avec au centre, en plus, ce qu'on appelle l'îlot de l'amirauté.
Cet îlot-là, décrivez-le-nous, et quelle était sa fonction aussi ?
Alors, il avait aussi cet îlot, alors il fait quand même 100 mètres de diamètre, et il y avait tout autour des rampes de halage qui ont été fouillées par les archéologues britanniques et tunisiens. Et on pense qu'au sommet, il y avait aussi peut-être, ça n'a pas été préservé, hein, parce qu'après les Romains ont quand même beaucoup détruit, très probablement un phare ou une vigie en quelque sorte.
Alors parlons, puisque vous évoquez ces fouilles archéologiques, alors on n'a pas parlé du port commercial, plus difficile lui à définir, à décrire, Jean-Philippe Guarant, si oui, pourquoi, sinon pourquoi ?
Bon, il a été quand même bien fouillé par les archéologues américains. Oui. Et on se rend compte que c'est un port, au début on pensait que c'était un port rectangulaire, et on se rend compte qu'il est peut-être, c'est un port hexagonal un petit peu. Mais les grandes lignes, ça reste quand même un port rectangulaire. La particularité, c'est que le port de guerre était en lien avec le port commercial par un canal. Mmh. Et le port commercial était en lien avec la mer Méditerranée par un canal.
Et ces canaux, ces chenaux, on va en parler dans quelques instants, ont leur importance aussi dans la compréhension des infrastructures portuaires de Carthage. Cette archéologie des ports de Carthage, elle n'est pas simple, Jean-Philippe Guarant, parce que les infrastructures, le port artificiel qu'on appelle le coton, ont été réorganisés, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est ça. Le coton, effectivement, c'est O-T-H-O-N, c'est un peu le... C'est le port fermé ultra protégé qui est lié à la mer par un canal. Et il faut voir que la difficulté des fouilles archéologiques en contexte portuaire, en contexte côtier, c'est qu'au bout d'un moment, on tombe sur la nappe phréatique. Alors, on peut utiliser des pompes, les archéologues utilisent des pompes, on va descendre un peu cette nappe phréatique de 50 cm, mais après, on est coincé. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté une nouvelle méthode par carottage et... On réalise donc des carottages en contexte côtier.
On va parler de cette géoarchéologie et de ces carottages, mais peut-être qu'on peut faire une rapide histoire des fouilles archéologiques qui ont été conduites de façon classique, entre guillemets, dans le port et dans les ports de Carthage entre les années 70 et 90 par les Britanniques et les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre de ces infrastructures portuaires de Carthage ?
Alors, ils ont confirmé quand même, l'archéologue britannique Hurst confirme les descriptions des textes avec ces navalias, ces rampes de halage, des navires de guerre. Et on mettait des rampes de halage pour deux raisons. D'abord, du coup, les navires de guerre étaient un peu... on ne pouvait pas les voir. Ensuite, on les sortait de l'eau dans des hangars à bateaux, légèrement inclinés. Ça permettait de les réparer, de les repeindre.
De faire sécher le bois.
De faire sécher le bois, tout à fait. Parce que plus le bateau était sec, plus il était rapide sur l'eau. Et plus il restait longtemps dans l'eau, plus il se gorgeait d'eau. Et les batailles navales, c'est des guerres éclairs sur l'eau. Il faut être rapide et les navires doivent bouger très rapidement. Et ensuite, ça permettait de les repeindre et de les entreposer aussi. Hein. l'eau abîme beaucoup, et de pouvoir les sortir immédiatement en cas de guerre. Ensuite, dans le port commercial, là c'est un archéologue américain qui va faire les premières fouilles, et tous les deux, ils découvrent quelque chose d'assez remarquable. Ils découvrent que avant ces ports, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils découvrent les traces d'un canal punique, mystérieux, comblé, et dont on a quelques vestiges, ça et là, sur les deux fouilles britanniques et américaines.
Quand il y a une énigme en science, généralement, il y a des hypothèses qui suivent. Alors, quelles sont les hypothèses qui sont émises sur la fonction de ce canal qui intrigue les archéologues à ce moment-là ?
Alors oui, les Britanniques montrent que les plus vieux vestiges du port militaire, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ. Les Américains montrent que les plus vieux vestiges du port commercial, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Or, la fondation, vous vous souvenez, c'est 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y a un gap, il y a un manque, il y a un hiatus. Et donc, nous, ce que nous essayons de faire par carottage, dont on va parler tout à l'heure, c'est essayer de retrouver les premiers ports, ce qu'on appelle les protoports, le port de fondation. Et on se dit, et les archéologues de l'époque se disaient aussi, très probablement, si on suit ce canal, qui est daté du 5e siècle avant Jésus-Christ, il va nous mener sur le port perdu du 5e siècle.
Parlons justement de votre approche, de cette approche par carottage. Pourquoi est-elle particulièrement adaptée à des recherches dans un contexte portuaire comme celui de Carthage ?
On l'a dit tout à l'heure, il y a cette nappe phréatique, c'est infernal. Hein. C'est vraiment très difficile pour les archéologues. Alors, ce que nous faisons, c'est qu'on fait des carottages, comme les carottes de glace, vous voyez, dans le pôle Nord ou pôle Sud. Et on descend donc on fait des carottages mécaniques rotatifs avec une trousse coupante en diamant. Et on descend, par exemple, sur 5 mètres, 10 mètres, parfois 15 mètres. On remonte des colonnes stratigraphiques, mètre par mètre. Et ça constitue des archives sédimentaires qu'ensuite on analyse comme un livre en laboratoire. Alors si les archéologues, eux, lorsqu'ils font les fouilles, ils trouvent des tessons de céramique qui datent parfaitement les unités stratigraphiques, nous, par carottage d'un diamètre de 10 cm, c'est super difficile. Il faut avoir beaucoup de chance. Donc notre, comme dans un livre, la pagination, elle nous est donnée avec les datations radiocarbone.
Alors, quand on pense archéologie portuaire, on pense à des vestiges matériels, à des infrastructures, à des traces d'architecture, d'une certaine façon. Comment un cylindre de 15 cm de diamètre va-t-il nous renseigner sur un port antique comme celui de Carthage ? Quelles sont finalement les traces que vous allez, vous, analyser en tant que géoarchéologue ?
Alors, vous avez raison, c'est un peu des frappes chirurgicales, ponctuelles, mais par rapport aux archéologues, on peut aller beaucoup plus profondément. Et on n'est pas gêné par cette nappe phréatique. Et on va atteindre, par exemple, on a atteint le substrat géologique. Et surtout, on a atteint la profondeur des bassins. On se rend compte, par exemple, que le bassin militaire fait 3 mètres de profondeur sous le zéro marin antique. Et le bassin commercial, lui, fait 5 mètres de profondeur sous le zéro marin antique. On le sait, et ce sont des données assez importantes, parce que ça permet de mettre en relation la profondeur des bassins et le tirant d'eau des navires. Et on sait, par exemple, les navires de guerre ont un tirant d'eau plus faible. Il faut qu'ils foncent, il faut qu'ils aillent vite. Donc, ils ont une moins grande amplitude dans l'eau. Alors que les bateaux de commerce, eux, ils sont chargés de marchandises, donc il faut un bassin plus profond. Et là, pour la première fois, on a mis en évidence ces paléoprofondeurs.
Alors, 2018-2022, c'est les deux campagnes de fouilles que vous avez co-réalisées avec vos collègues tunisiens. Si on doit finalement faire une espèce de tableau, de présentation de ces découvertes et de ce que vous n'avez pas réussi à découvrir par rapport à vos ambitions initiales, quel serait ce tableau-là ?
Alors, vous faites bien de rappeler les confrères tunisiens. Tout ça est rendu possible grâce à une collaboration très étroite et pluridisciplinaire avec l'Institut National du Patrimoine de Tunisie, c'est la surintendance archéologique italienne, et mon collègue et confrère, le docteur Ahmed Gadoum, qui est archéologue et qui travaille aussi sur les ports et qui est archéologue plongeur. Alors, ce qu'on a montré au-delà donc de ces paléoprofondeurs, on a mis en évidence quelque chose de terrifiant pour nous. Ce sont des phases de curage. Un bassin portuaire, il se colmate avec le temps de sédiments. Il y a des sédiments qui s'accumulent au cours du temps.
Ça s'encrasse, quoi, d'une certaine façon.
Ça s'encrasse. Et c'est intéressant parce que pour nous, c'est le livre. C'est les pages d'un livre qui s'accumulent. Et malheureusement, parfois, les ingénieurs de l'époque font du curage, du dragage. C'est-à-dire que pour maintenir en fonction les bassins, qui se colmatent, ils viennent avec une sorte de godet et ils curent. Et pour nous, c'est terrible parce que c'est comme une bibliothèque qui brûle. Alors, on s'est rendu compte, et ça c'est pour la première fois, on s'est rendu compte que les ingénieurs puniques avaient fait ça, parce que jusqu'à présent, c'était surtout les ingénieurs romains.
À quelle époque à peu près ?
Alors, on est entre les deux guerres puniques, hein, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, ce qui se passe, malheureusement, c'est que les Romains, après la Deuxième Guerre punique, donc ils détruisent Carthage, on l'a dit, mais ils abandonnent les ports, les archives sont toujours là. Et après, lorsque César dit il faut remettre en fonction Carthage, les ingénieurs romains arrivent et là, ils curent tous les sédiments dans le port de Carthage. Donc il y a une deuxième destruction terrifiante au moment de la remise en fonction des ports de Carthage. Mais certains de nos carottages, notamment dans le port commercial, arrivent à atteindre des strates un peu plus profondes et préservées.
Alors ça me fait peur, du coup, ça me fait me dire, Jean-Philippe Guaran, que Carthage, l'antique Carthage avant la Carthage romaine, on ne pourra pas retrouver les traces de ces ports initiaux. Est-ce que c'est le cas ou bien est-ce que vous avez quand même quelques espoirs de pouvoir en retrouver des traces ?
Oui. Il y a eu un résultat assez intéressant, c'est qu'il y a un auteur ancien qui s'appelle Appien, qui décrit bien la Deuxième Guerre punique, et à un moment il décrit que le bassin circulaire militaire, qui ne communiquait qu'avec le port commercial, ça les Romains le savaient, discrètement pendant la nuit, ils vont ouvrir une deuxième passe directement vers la mer, pour permettre à une flotte de sortir et de surprendre les Romains.
Une sorte d'échappatoire un petit peu.
Une sorte d'échappatoire, oui, oui. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans nos carottages, dans certaines strates, on voit apparaître au début un port bien confiné, bien protégé, et d'un coup, des bio-indicateurs marins de type ostracode, et des petits crustacés, des petites bestioles de la taille d'un grain de sable, qui nous donnent l'information au IIe siècle avant Jésus-Christ qu'il y a une ouverture marine soudaine.
C'est-à-dire que ces micro-organismes-là vous disent « Ah tiens, l'eau a changé de composition, et donc du coup, il y a une entrée maritime à cet endroit-là, donc il y a forcément un canal qui est passé par là, c'est ça ?
Voilà. On a peut-être les traces, finalement, sédimentaires de ces textes antiques.
Est-ce que, du coup, d'autres travaux de recherche vont être conduits dans ce sens-là, sur ces canaux-là ? Quelles sont, finalement, les fouilles que vous envisagez pour la suite ?
Alors, on est quand même assez tenté par ce canal mystérieux du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui fait quand même 25 mètres de large, 3 mètres de profondeur. C'est pas rien hein, pour le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un canal punique. On n'a pas d'autres exemples de canaux puniques de ce type-là. Alors, on arrive à le retrouver dans deux endroits, donc au milieu de l'îlot de l'Amirauté et sur la bordure du port commercial. Donc, on a plus ou moins un axe. Donc, on va aller avec Ahmed Gadoum l'année prochaine et le soutien de l'INP et du CNRS, plus vers le nord et plus vers le sud pour voir d'où il vient et jusqu'où il nous mène. Parce que quand on imagine faire des fouilles archéologiques, parce qu'il faut, pour celles et ceux qui connaissent Carthage, tout est urbanisé aujourd'hui. Alors, il y a des rues, il y a des canalisations, il y a des conduites de gaz, des conduites d'eau. Donc, faire des fouilles dans ces endroits-là, c'est pas possible. Alors, de façon ponctuelle, avec un carottage qui fait seulement 8 à 10 cm de diamètre, on peut, de façon ponctuelle, réussir à suivre dans la trame urbaine ces anciennes formes et ces anciennes structures archéologiques.
Alors du coup, on a parlé de beaucoup du port militaire. Le port commercial aussi va-t-il avoir votre intérêt ? Est-ce que c'est nécessaire de travailler toujours sur les deux ports en même temps, puisque d'une certaine façon, ils communiquaient naturellement, on va dire ?
Oui, oui, oui. Là, on a effectivement réalisé des carottages dans certains secteurs du port rectangulaire, du port commercial. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement avec nos collègues tunisiens, c'est l'embouchure. C'est la jonction entre ce port et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, l'embouchure, elle est complètement colmatée. C'est un parc. Et on peut carotter les pieds à sec dans ce parc. Donc ça simplifie beaucoup les opérations techniques. Donc l'embouchure, quand même, c'est assez... L'entrée du port, c'est quand même assez important. Et les premiers résultats radiocarbone qu'on est en train d'obtenir, il faut encore être un peu prudent, mais ils remontent au 6e, 5e avant Jésus-Christ. Donc déjà, on a des strates encore plus anciennes. Et vous rappelez que l'idée absolue presque. Hein. On a tous, dans la recherche, dans toutes les recherches, même au-delà de la recherche archéologique ou géo-archéologique, un Graal, c'est de réussir à trouver le port légendaire de la princesse Elissa.
C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, de trouver ce port légendaire. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Jean-Philippe Gouarand, c'est que l'analyse de ces sédiments, elle est utile, on le comprend, à l'archéologie, mais qu'elle nous renseigne aussi sur l'environnement, le climat, le niveau de la mer à ces époques-là. C'est pas des informations non plus négligeables. Et c'est là où cette géoarchéologie est à la frontière entre plusieurs questions, finalement.
C'est vrai, c'est vrai. On dit souvent, l'actuel est une clé pour comprendre le passé, et le passé est une clé pour comprendre l'avenir. Et quand on travaille sur les ports antiques, je vous ai parlé tout à l'heure du niveau de la mer à l'époque antique. Eh bien, on l'a trouvé. Et le niveau de la mer à l'époque antique était en dessous du niveau de la mer actuelle, puisqu'on a un réchauffement climatique, donc il est en dessous, à peu près à 50 cm en dessous. Et alors, le niveau de la mer, il bouge, comment on peut le retrouver? C'est très difficile. Et on a de la chance, parce que quand on travaille en contexte archéologique côtier et portuaire, le niveau de la mer laisse sur les structures portuaires, sur les môles, une ligne de coquillage composée de vermets, de bananes, un petit peu d'huîtres aussi, une ligne de coquillage qui matérialise parfaitement la position du niveau de la mer à l'époque antique. Alors on fait ensuite, donc quand on découvre cette ligne de coquillage fossile, on fait deux analyses. La première, c'est une datation radiocarbone pour dater ce niveau marin ancien. Est-ce qu'il est punique? Est-ce qu'il est romain? Et ensuite, on mesure la ligne de coquillage antique avec la ligne de coquillage actuelle qui se développe aujourd'hui sur les quais actuels de Carthage.
Donc on perçoit bien finalement l'intérêt de cette géoarchéologie, une méthode finalement qu'on peut exporter dans tous les ports. C'est ce que vous faites aussi, Jean-Philippe Gouarand. Vous ne vous contentez pas, entre guillemets, de Carthage. Vous allez aussi explorer des ports étrusques, d'autres ports antiques.
Oui. Alors on a effectivement, et on essaye d'étudier d'ailleurs, les deux ports de façon synchrone. Le port d'origine, le Tyr, au sud Liban, et qui a fondé donc Carthage, un deuxième port. Et on essaye aussi d'étudier d'autres ports, les ports romains, notamment le port d'Ostie, et un petit peu plus au nord, les ports étrusques, qui n'ont pour l'instant, c'est un autre mystère ça, n'ont jamais été retrouvés. Aucun port étrusque n'a été retrouvé. On a les ports puniques, on a les ports romains, mais on ne retrouve pas les ports puniques, on ne sait pas pourquoi, ça c'est une autre énigme.
C'est une autre énigme que vous viendrez peut-être un jour nous raconter à ce micro. En tout cas, on vous souhaite de trouver évidemment ce port légendaire, le port d'Elissa de Carthage, le premier port. Et si vous le trouvez, vous nous faites signe et puis vous revenez.
Ok.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny à la réalisation, Olivier Bétard. Merci à Raphaël Rousseau aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.